Père, merci pour ta présence au milieu de nous. Ton esprit qui a fait sa demeure en nous. Tu dis dans ta parole que tu habites au milieu des louanges de ton peuple. Père, nous voulons t'adorer ce matin. Toi, Seigneur, qui nous as apporté la consolation. La consolation de nos péchés, la consolation de notre solitude, la consolation de nos guerres, de nos conflits. Nous voulons t'adorer ce matin. Père, je veux te demander ta grâce ce matin. Te demander ta grâce pour que le message, Seigneur, que j'ai à partager avec l'Assemblée vienne de toi. Que, Seigneur, dans tout ce que je vais dire, je puisse honorer, manifester, exposer les sentiments de ton cœur. Père, je te prie de bénir les enfants qui sont avec nous ce matin exceptionnellement. Touche leur cœur, Seigneur. Aide-les à découvrir un autre aspect de ta personne, Père. Merci d'être avec moi. Merci d'avoir fait de moi ton enfant. C'est en Jésus-Christ que je te prie. Amen. Amen. Un enfant qui naît dans une famille moyennement stable, d'accord? Un foyer ordinaire, mais sain. Pas parfait, mais sain. Un enfant qui naît dans un foyer comme celui-là, ne s'inquiète pas pour savoir ce qu'il va manger demain, habituellement. Il y a des situations difficiles sur la terre. On est en Occident. Un enfant qui naît dans une famille stable, relativement équilibrée, avec ses hauts et ses bas, un enfant qui naît dans un foyer comme ça, ne s'inquiète pas de ce qu'il va manger demain. En fait, la question qui se pose, c'est est-ce que maman fait du spaghetti ce soir ou elle va nous obliger à manger du poisson? C'est les questions qui se posent. Hein? Un enfant qui naît dans une famille comme ça se couche pas le soir en vérifiant que les portes sont barrées dans la maison. Un enfant qui naît dans un foyer comme celui-là se demande pas si les parents vont être à la maison lorsqu'il va arriver de l'école ou s'il va y avoir quelqu'un pour prendre soin de lui ce soir. Il ne s'inquiète pas de la prochaine saison pour savoir s'il va avoir le vêtement pour s'habiller. Un enfant qui naît dans un foyer assez ordinaire, mais relativement équilibré, sait que même s'il vit des peines, s'il vit des choses difficiles, à quelque part, ses parents vont être là pour le consoler. Mes enfants vivent ça. Et Esther et moi, on n'a pas le sentiment d'être des parents extraordinaires. Au contraire. Mais je crois que c'est juste de dire que mes enfants se... s'inquiète pas, il se demande pas, ben, est-ce qu'il va y avoir de la nourriture la semaine prochaine? Est-ce qu'on est en sécurité à la maison? Est-ce que papa et maman vont être là pour me protéger? Est-ce que je dois apprendre à me défendre? Alors, peut-être qu'ils se posent des questions, sont un peu inquiets pour l'avenir, mais ils savent qu'on va être là pour les accompagner dans le processus. Et, comme je le dis, c'est rien d'extraordinaire. C'est une famille saine, n'est-ce pas? Nos enfants ne vivent pas toutes ces inquiétudes et toutes ces insécurités, si je peux le dire comme ça, parce qu'ils ont de bons parents. Pas des parents extraordinaires, des bons parents. La Bible... et particulièrement le Nouveau Testament, nous révèle Dieu comme un parent, comme un père qui veut prendre soin entourer, protéger, conduire, chérir, pourvoir aux besoins de ses enfants. C'est ainsi que Dieu nous est révélé dans la Bible. Il se présente comme notre Père. C'est particulièrement vrai et c'est particulièrement vrai dans la vie de Jésus parce que c'est particulièrement à travers la vie de Jésus que nous découvrons le Père. Quand Jésus a commencé à parler de Dieu dans son ministère terrestre, quand Jésus a commencé à parler de Dieu, il a commencé à faire quelque chose d'étrange. Il parlait de Dieu constamment comme étant son Père, Abba. Le sens même, ça ressemble plus à papa que Père. Père, puis-je te parler? Ça ressemblait plus à papa. D'accord? Et c'était constamment sur les lèvres de Jésus. Il parlait de Dieu, non pas comme du Dieu créateur qui me protège et sous la protection duquel je me suis placé, mais comme son Père. Et Jésus venait révolutionner littéralement la vision qu'Israël avait de Dieu, la vision que les hommes ont de Dieu. Dans l'Ancien Testament, à quelques reprises, Dieu se présente comme le Père d'Israël. C'est là, dans l'Ancien Testament, c'est le même Dieu, c'est le Dieu qui ne change pas. Mais lorsque le Fils de Dieu est venu sur la terre, lui, comme aucun autre, pouvait nous apporter cette révélation que Dieu n'est pas seulement un Dieu, pas seulement notre Dieu, mais qu'il est un Père. Et à travers sa vie, à travers sa relation avec son Père, il nous a fait découvrir que Dieu est un Père. G.I. Packer, qui a écrit un livre référence, un livre à lire dans votre vie chrétienne, le livre « Connaître Dieu ». Dans le livre « Connaître Dieu », G.I. Packer dit ceci. Il dit « Le nom chrétien pour Dieu, c'est Père. » Voici comment les chrétiens parlent de Dieu lorsqu'ils parlent à Dieu, lorsqu'ils s'adressent à lui. Bien sûr, ils disent « Mon Dieu », bien sûr, ils disent « Éternel ». Mais d'une manière privilégiée et particulière, les chrétiens s'adressent à Dieu en disant « Père ». C'est le nom chrétien de Dieu. Père. Et à travers la relation que Jésus avait avec son Père, il nous a apporté une révélation absolument extraordinaire de la personne de notre Père. J'ai décidé de faire une courte série qui va durer quelques semaines, d'accord? Et ça va être une série, en termes techniques, on appelle ça une série topique. Ça veut dire que j'adresse un sujet. Je vais passer moins de temps à prendre des portions larges des Écritures et à les exposer, plus de temps à me promener dans différents textes de la Bible parce que je désire couvrir un sujet qui est extraordinairement important, particulièrement dans le Nouveau Testament. J'ai décidé de faire une série de quelques semaines sur le sujet de l'adoption. L'adoption de celui qui place sa foi en Jésus. Le fait que la personne, chaque individu qui décide de croire en Jésus-Christ entre dans une nouvelle famille et a un nouveau Père, qui est le Père de Jésus, qui devient ton Père, mon Père. C'est une nouvelle identité et nous devenons enfants de ce Papa-là. Une des choses qu'on a placées devant l'Assemblée, les anciens, et ce matin, c'est vraiment une introduction que je fais. Une des choses qu'on a placées devant l'Assemblée où nous voulons grandir, c'est grandir dans la prière. Moi-même, lorsque j'ai partagé ça avec l'Église, je vous ai confessé que j'avais énormément à grandir dans la prière. Je pense que je donne un exemple dans plein de domaines dans ma vie, à travers mon dévouement, mon service, ma consécration, tout ça, l'exposition de la parole. Il y a des forces, mais ça, c'est un des domaines où Dieu me demande depuis longtemps vraiment de me mettre à genoux, littéralement, et de travailler sur ma vie de prière. Et je vous l'ai confessé et nous en faisons une priorité. Et Dieu répond à vos prières. Je sais qu'il y a des gens qui prient pour que Dieu me fasse grandir dans ma vie de prière. Je peux vous dire que Dieu répond. C'est tellement, tellement, tellement agréable de grandir dans ma vie de prière, de prier de plus en plus avec un réflexe qui me conduit vers la prière et une dépendance envers Dieu. Plus je grandis dans ma vie de prière, plus c'est clair pour moi, plus c'est évident pour moi que saisir et comprendre qui est le Père pour nous, quelle est notre relation avec le Père, est un élément crucial pour grandir dans la prière. Mes enfants prient, entre guillemets, tous les jours leur Père terrestre. C'est un réflexe. Papa, est-ce qu'on peut faire ça? Papa, est-ce que je peux avoir ça? Papa, j'aimerais ça faire ça tantôt. Hein? Mes enfants prient, entre guillemets, leur Père terrestre à tous les jours. C'est un réflexe. C'est même pas une... On n'a pas eu à leur enseigner. Ça a commencé avec « Bon, c'était pas clair, là, mais ils ont réussi à se faire comprendre. La prière a été assez insistante pour que même un cœur mauvais comme le mien puisse répondre à leurs besoins. Mes enfants prient leur Père céleste tous les jours, régulièrement. Et c'est de plus en plus clair pour moi que si je veux grandir dans ma vie de prière, si cette assemblée doit grandir dans cette vie de prière, notre compréhension, notre vision, cette révélation particulière que Jésus-Christ a apportée en tant que Fils de Dieu, de notre Père céleste et de notre relation au Père est cruciale pour grandir dans la prière. C'est crucial. Plus tu comprends qui est le Père, combien il t'aime, combien il veut te chérir, plus tu pries naturellement. Plus tu arrêtes de faire le drôle et tout faire par toi-même sans jamais en référer à ton Père. Plus tu grandis dans ce domaine-là. Alors, je désirais faire ce tiré-là pour nous aider à grandir dans notre vie de prière. Mais j'avais une autre raison aussi qui est... J'avais une autre raison qui est plus profonde, qui est plus sérieuse, je dirais. Depuis plusieurs mois, il y a quelque chose qui me tracasse, quelque chose qui me trouble. Et pour moi, Dieu ouvre mes yeux comme berger, comme pasteur, sur l'expérience que bien des chrétiens font. Lorsqu'on a travaillé sur la publicité pour la série, on aurait pu vous donner, hein? Un petit orphelin qui a été adopté puis qui s'en va avec son papa ou avec sa maman puis oula hop, la vie est belle. Mais on a décidé de prendre cette image-là, qui est une image triste. À travers les derniers mois, la dernière année, je suis tracassé, préoccupé par le fait que beaucoup de chrétiens vivent quotidiennement comme s'ils étaient orphelins. Plusieurs d'entre vous, vous vivez au quotidien comme si vous n'aviez pas de père. Et ce qui se passe dans votre cœur, votre expérience quotidienne ressemble plus à l'expérience de cet enfant-là qu'à celle de Jésus qui est près de son père. Un enfant abandonné, qu'est-ce qu'il fait? Un enfant abandonné sait qu'il doit se prendre lui-même en charge parce que personne ne va le faire pour lui. Un enfant abandonné ne prend jamais pour acquis le prochain repas. Un enfant abandonné est toujours concentré sur ses besoins primaires, sa sécurité. Où est-ce que je vais dormir cette nuit? Est-ce que je vais pouvoir traverser la nuit? Est-ce que je vais me faire attaquer cette nuit? Qu'est-ce qui va se passer? Un enfant abandonné n'a pas de pont de confiance. Il n'y a pas de relation de confiance avec un parent, avec des parents qui l'accueillent et qui prennent soin de lui. Il vit dans l'inquiétude perpétuelle, la prise en charge. Certains d'entre eux écrasent, vivent dans une inquiétude constante. Ils sont paralysés. D'autres s'endurcissent et apprennent à se prendre en main, à faire face à ce mauvais monde qui n'a rien de bon à m'offrir. Puis il faut que tu apprennes à défendre toi-même parce qu'il n'y a personne qui va être là pour prendre soin de toi. Ils apprennent à se défendre, c'est leur réalité. La réalité d'un enfant qui est abandonné. Plusieurs d'entre vous, vous vivez votre vie chrétienne comme si vous étiez orphelin. passant vos journées à vous inquiéter, sans confiance pour demain, insécure pour l'avenir, sans confident, pas de place à rentrer le soir pour aller dans le lieu secret avec votre Père, confier vos inquiétudes, vos soucis, vos préoccupations. Vous vivez et vous marchez comme des orphelins spirituels. Et c'est une raison pour laquelle j'avais à cœur d'apporter cette série sur l'adoption du croyant. Parce que nous ne sommes pas orphelins spirituels. Et je prie que Dieu vienne vous rencontrer à travers cette série-là et qu'il vienne parler à vos cœurs, qu'il vienne vous révéler ce Père merveilleux que nous avons. Quand un enfant vit dans une situation saine, dans un foyer sain, il ne passe pas son temps à s'inquiéter et pas concentré seulement sur ses besoins primaires, la maison, la nourriture, la sécurité. Il a des rêves pour l'avenir, il a des projets, il a un confident, il a des confidents à qui il peut se confier. Quand il y a des moments d'insécurité, il sait qu'il peut être dirigé. Incertain de ce qui s'en vient, il est certain que papa, maman vont l'accompagner dans sa préparation pour l'avenir. Ma prière, c'est que vous découvriez votre Père. Parce que vous n'êtes pas des orphelins spirituels. Vous avez un Père qui veut vous chérir et prendre soin de vous. Jésus avait un Père céleste qui lui apportait cette assurance et cette paix. On a une vision de Jésus lorsqu'on lit les évangiles. Si on passe par-dessus une série de passages, on a une vision de Jésus, un homme fort. N'importe qui vient, se présente devant lui, veut l'attaquer, veut le planter. Jésus a toujours la réponse. Jésus a la réponse lorsque les éléments de la nature ne concordent pas avec ce qu'il veut. Jésus a la réponse devant les démons. Jésus a la réponse devant les maladies. Jésus est big, il est huge. Puis on peut s'arrêter là. Mais si vous lisez les évangiles attentivement, Jésus dépendait de son Père. Il est le Fils de Dieu qui vit dans une relation intime et étroite et il dépend de son Père. Il trouve en son Père une assurance pour faire face à l'avenir. Il trouve dans son Père une grâce et une confiance parce qu'il connaît intimement son Père et il sait que son Père veille sur lui. Et oui, c'est Dieu, le Fils. Je ne suis pas en train d'abaisser Jésus-Christ. Je suis en train de vous parler de cette relation qu'il y a entre le Père, le Fils et l'Esprit. Relation dans laquelle nous sommes appelés à entrer en devenant des enfants de Dieu. Jésus avait un Père, et je vais lire quelques passages dans l'Évangile de Matthieu ce matin, d'accord? Vous pouvez tourner si vous êtes assez rapide, vous êtes familier avec Matthieu, ouvrez-le dans Matthieu, je vous donne les références, des fois ça fait du bien de le lire de nos yeux, de le voir. Jésus avait un Père, regardez comment Jésus priait. Tournez avec moi dans Matthieu 11, les versets 24 à 27. Et j'avance un petit peu dans le passage. Soyez attentifs à l'intimité de la relation entre Jésus, cet homme qui a marché sur la terre il y a 2000 ans, et son Père. Matthieu 11, 24 à 27, j'avance un peu dans le texte. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, il commence à prier publiquement, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui il veut le révéler. » Jésus commence à prier et il ne dit pas « Mon Dieu ». Ailleurs, Jésus le fait. Jésus priait des fois en disant « Mon Dieu ». Mais souvent, Jésus commençait à prier en disant « Papa, je te loue de ce que tes plans sont parfaits, papa. Tu sais où tu t'en vas. Tes dessins sont excellents. Tu es sage. » Et il termine cette prière en disant « À ceux à qui le Fils veut révéler le Père, ils vont découvrir leur Père céleste. Voyez-vous, Jésus-Christ a été envoyé sur la terre pour nous offrir la possibilité de se réconcilier avec Dieu. Mais à travers la venue de Jésus-Christ, nous avons une révélation de notre Père céleste et de cette relation entre le Fils et le Père. Et dans ce passage, Jésus nous dit qu'il peut nous révéler le Père. Il peut nous faire connaître non seulement le Dieu qui a créé l'univers, mais un Père céleste, tout-puissant, parfait celui-là, qui peut prendre soin de nous. Et le Fils qui le connaît intimement peut nous révéler ce Père. C'est fantastique. C'est ma prière. C'est ma prière pour moi. C'est ma prière quotidienne pour moi. C'est ma prière pour vous. Dans Matthieu 18, 18 à 20, Matthieu 18, 18 à 20, j'avance encore une fois un peu dans le texte, on lit. « Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Il y a plein de choses à voir dans ce texte-là. Ce que je voudrais que vous remarquiez, c'est la confiance absolue que Jésus a en son Père. Jésus est tellement sûr, tellement certain de la relation qu'il a avec son Père, il donne une promesse absolument énorme. Et il dit, si vous demandez quelque chose à mon Père, en mon nom, il va vous le donner. Il va vous le donner. C'est mon Père, je le connais, puis je sais combien il m'aime. Quand vous arrivez devant lui, dites, je viens au nom de Jésus. C'est mon Père. Il va vous le donner. C'est ça que le texte dit. C'est la relation que Christ avait avec son Père céleste. Jésus fait confiance à son Père dans les choses qu'il ne sait pas. Jésus, c'est Dieu le Fils. Oh, il en connaît des affaires. Mais c'est Dieu le Fils. Et il reste des zones que le Père n'a pas encore révélées. Tournez dans Matthieu 24, versets 34 à 36. Jésus est en train de faire des prophéties, il est en train de parler de la fin des temps, il est en train de parler de moments qui attendent l'histoire de l'humanité encore. Mais voici ce qu'il dit. Matthieu 24, 34 à 36, « Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive, le ciel et la terre passeront. Mais mes paroles ne passeront point. » Là, Jésus dit quelque chose qui nous parle encore de sa relation avec son Père. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Jésus s'avance sur une prophétie sans connaître les détails de l'accomplissement, mais sa relation avec son Père lui donne cette assurance, cette confiance d'avancer vers quelque chose d'inconnu en sachant qu'il ne sait pas tout, mais que le Père va être là. Le Père va être fidèle. Le Père ne m'a pas tout dit. Il y a des petites choses que je ne sais pas encore. Quand ça sera le temps, c'est mon Père. Il va nous le dire. Inquiétez-vous pas. Jésus fait confiance à son Père pour avancer dans des domaines où il ne sait pas. Dans le jardin de Gethsémané. Quelques instants avant son arrestation. Quelques heures avant sa crucifixion. Jésus fait confiance à son Père. C'est extraordinaire, l'intimité, la richesse de ce qui est dit là. Dans Matthieu 26, tournez avec moi, Matthieu 26, versets 41-42. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Jésus s'adresse à ses disciples. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Puis Jésus s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, Papa, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Jésus s'en remet entièrement à la volonté de son Père. Il dit, « Papa, c'est toi qui sais le chemin que je dois prendre. Il ne m'intéresse pas. Dans mon humanité, je sais ce qui m'attend et ça ne m'intéresse pas du tout de passer par là. Mais tu es mon Père. Tu es mon Père et tout ce que tu le fais pour mon bien. Dis-moi par où je dois passer, papa. Je te suis. Je te suis. » Voyez-vous, on n'est pas dans une relation entre Dieu le Fils et Dieu le Père, dans une espèce de sphère où tout le monde est au contrôle de tout absolument. Il y a une dépendance, il y a une fragilité qui est là dans la personne du Fils où il dépend de son Père et il y a un combat à l'intérieur de lui parce que le chemin à prendre pour aller faire la volonté de son Père, ça va être un chemin de souffrance, ça va être un chemin de déchirement. Ça va aller tellement loin qu'à un certain moment donné, il va dire « Pourquoi m'as-tu abandonné? » Il va y avoir une séparation inexplicable, incompréhensible dans mon esprit, ce qui est parfaitement uni de toute éternité va être divisé par le péché. Sur la croix, Christ va s'écrier, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » Parce que le Père va tourner le dos au Fils. Lorsque le Fils va devenir péché à notre place, lorsque le péché va être placé sur Christ, Jésus anticipe ces choses-là. De toute éternité, il vit une relation de confiance parfaite avec son Père. C'est son Père. C'est son Père et il est le Fils. Et il connaît l'amour de son Père pour lui. Et il doit passer par ce sentier-là qui implique de la souffrance, qui implique des brisements, des déchirements incroyables. Il y a une zone inconnue parce qu'il va y avoir cette déchirure-là dans une union parfaite de toute éternité. Sur la croix. Et on retrouve à ce moment-là cette relation privilégiée, superbe, absolument extraordinaire que Dieu le Fils a avec son Père. Papa, s'il n'y a pas d'autre moyen, je vais passer par là. Parce que je te connais, tu es mon Père. Je sais que tes desseins sont bons, je sais que tes plans sont parfaits, papa. Je te suis. Combien de fois j'ai demandé à mes enfants juste de m'obéir. Je sais que tu ne comprends pas. Je sais. Fais-le. Tu vas comprendre plus tard. Fais-le. Je pourrais t'expliquer. Tu comprendras plus tard. Lors de son arrestation, Jésus sait très bien qu'il aurait pu demander l'aide de son Père n'importe quand. Une confiance extraordinaire. Matthieu 26, versets 50 à 53. Judas se présente, le traître, un de ses disciples qui vient pour le trahir. Judas se présente, Jésus s'adresse à lui et lui dit, « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors les gens s'avancèrent, les soldats commencent à se placer, à intervenir pour venir se saisir de Jésus physiquement, pour l'arrêter, le conduire et qu'il soit jugé. Alors les gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée et frappa le serviteur du souverain sacrificateur, lui emporta l'oreille. La violence va éclater. Mais la relation entre Jésus-Christ et son Père va être ce qui va guider la suite de l'histoire. Parce que dans la prière, Jésus a dit, Père, s'il faut que je passe par là, je vais passer par là. Tu sais ce qui est bon pour moi. Et c'est ça qui va dicter la suite de l'histoire. Ses disciples sont prêts à se battre. On s'occupe de ces gars-là, tu te pousses. Non, mon Père m'a appelé à passer par ce chemin-là. Écoutez bien la suite. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place. Car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Et regardez bien, la relation que Jésus a avec son Père. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Jésus avance dans cette épreuve ultime de sa vie, avec cette confiance qu'à tout moment, son Père est là et pourrait le sortir de là. Mais il est un fils obéissant qui qui connaît l'amour de son père. Et son père lui a dit, oui, mon fils, il faut que tu passes par là. Tu le sais, c'est la bonne chose à faire. Il faut que tu passes par là. Jésus était soumis au Père, il dépendait de son Père, il avait confiance en son Père. Le papa de Jésus veut être votre papa. Le Père de Jésus est votre papa. Et la relation qu'il a avec son Père, il veut vous faire entrer dans cette relation avec celui qui devient votre Père maintenant. Quand Jésus est venu, rapidement dans ses enseignements, il s'adressait à son Père en disant « Papa » et il enseignait les disciples en leur disant « Votre Père ». Jésus invitait les gens qui l'écoutaient à entrer dans cette relation avec son Père à lui afin qu'il devienne leur Père à eux. Jésus veut nous conduire dans cette relation-là afin que celui qui est son Père soit mon Père à moi et que je puisse entrer dans cette même relation intime avec son Père qui n'est plus seulement son Père, mais c'est le mien à moi. C'est mon Père à moi. Et je vais juste vous lire quelques passages rapidement dans Matthieu 6:6. Voici ce que Jésus dit. Et on va retrouver un écho de cette même intimité qu'il y a entre Jésus et son Père. « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, Matthieu 6:6, ferme ta porte et prie ton Père, qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Cette même sécurité, cette même certitude que Jésus avait d'être entendu par son Père, que son Père écoutait ses prières, que son Père était attentif à ses prières, Jésus est en train de nous dire, cette même intimité-là, cette même proximité-là est disponible pour toi. Tu n'as pas besoin de faire des prières en public pour paraître devant les hommes. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est ta relation avec ton Père céleste qui est là dans le secret de ton cœur, qui entend tes prières, qui veut être là dans cette intimité avec toi. Voyez-vous, Jésus est en train d'inviter les hommes à entrer à leur tour dans cette relation intime avec le Père. Dans Matthieu 6, un tout petit peu plus loin, les versets 7 et 8, voici ce qu'il dit. « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, en priant comme les païens qui répètent, constamment des prières qui ne sont pas dans une relation véritable. » C'est une espèce de mantra qui est présenté. Non, il dit « Arrêtez ça. » En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. Quand mes enfants se lèvent le matin, ils ont plein de demandes qu'ils veulent faire, mais il y a déjà plein de demandes qu'ils n'auront pas à faire parce que nous sommes déjà en train de pourvoir à ça. Vous me suivez? Il y a plein de choses que mes enfants n'auront pas à nous demander parce que nous sommes déjà en train de pourvoir à ça. Parce qu'on sait déjà où est-ce qu'ils s'en vont, ce qu'ils désirent. Et Jésus est en train de nous dire, vous savez, mon Père qui comprend mon cœur, qui connaît ce que je vis, qui voit ce que je vis, c'est votre Père à vous. Et avant même qu'une prière soit énoncée, il connaît déjà toutes les inquiétudes de votre cœur. Il connaît déjà les soucis, les préoccupations de votre cœur. Il est témoin de votre cheminement, comme je suis témoin du cheminement de mes enfants, mais avec cette puissance extraordinaire d'un Père céleste qui est esprit et qui accède directement à mon cœur. Privilège que j'ai pas avec mes enfants. Je dois apprendre à les lire, à les décoder, à les écouter, à les laisser s'ouvrir. Jésus nous dit non pas avec votre Père céleste. Avant même que tu comprennes le trouble qu'il y a dans ton cœur, avant même que tu formules la requête, il sait déjà de quoi tu as besoin. Quand Jésus est venu, il est venu nous présenter son Père et il nous invite à entrer dans cette relation avec son Père afin qu'il devienne notre Père à nous. Vous n'avez pas à vivre chaque jour de votre vie comme des orphelins spirituels. Vous n'avez pas à marcher chaque jour de votre vie comme si vous étiez sans papa. Oui, peut-être que vous avez un très bon père terrestre. Et pourtant, celui-là, je peux vous dire, lui, il est quelque chose. Et vous n'avez pas à vivre comme des orphelins spirituels parce que Jésus est venu pour nous révéler son Père, nous faire entrer dans cette relation avec lui. Jésus est venu nous conduire dans cette relation, non pas avec Dieu, oui, avec Dieu, mais pas avec Dieu seulement, avec Dieu le Père. Et c'est vraiment une révélation particulière de Jésus-Christ comme Fils de Dieu qui nous fait connaître un Dieu qui n'est pas seulement un Dieu ou mon Dieu, mais qui est Dieu, mon Papa, qui veut prendre soin de moi. Et dans la mesure où vous allez grandir dans cette expérience quotidienne avec votre Père, avec votre Papa céleste, votre vie de prière va être façonnée, votre quotidien va être transformer, vos relations vont être affectées par ça. Parce qu'il n'y a pas lieu de marcher constamment dans l'insécurité, l'inquiétude, la prise en charge personnelle de tout ce qui se passe dans ma vie. Il faut que je m'en occupe, personne ne va le faire pour moi. C'est bon pour les orphelins, ça. C'est vrai. Et il y en a plein qui souffrent comme ça. Et c'est vrai qu'ils sont mieux de se prendre en main parce que personne ne va prendre soin d'eux. Mais vous n'êtes pas orphelins. Vous n'êtes pas orphelin. Vous n'avez pas à faire face aux choses de la vie en disant « Je suis mieux de les prendre en main parce que personne ne va le faire pour moi. » Non, vous avez un Père à consulter qui est souverain sur ce qui se passe dans votre vie. Et c'est avec lui que vous allez intervenir. C'est sous sa protection que vous allez intervenir. Peut-être que vous n'avez pas appris à faire confiance à un Père. D'accord? On a chacun nos histoires. Et peut-être que vous n'avez pas eu cette grâce-là, peut-être que vous n'avez pas eu ce privilège-là. Parce que oui, comme Père, je suis conscient que je suis là pour refléter la personne du Père céleste auprès de mes enfants. Je suis là pour refléter la personne de Dieu. Peut-être que vous n'avez pas eu le privilège d'apprendre à faire confiance à un Père. Ça, c'est votre histoire, c'est très possible. Ou peut-être que vous avez eu un très bon Père ou vous avez encore un excellent Père, hein? Mais ça, c'est bon pour la terre. Parce que vous avez quitté la maison maintenant et vous vivez comme des orphelins au quotidien, même si vous avez eu un bon père sur la terre. Vous avancez dans la vie comme des orphelins spirituels au quotidien, qui n'ont pas un bon père, qui n'ont pas un bon père qui veille sur lui. Maintenant, ce qui est important, avec la révélation que Christ nous a apportée, avec ce que là où Dieu veut nous conduire, et je vais développer ça vraiment la semaine prochaine. Voyez-vous, les chrétiens ne voient pas Dieu comme un père juste pour mettre une image d'intimité. Ça pourrait être ça, hein? Je veux dire, les êtres humains en général croient dans l'existence de Dieu, dans un être suprême, un être cosmique qui est là quelque part, puis ils veulent, c'est bon, c'est rassurant de se confier, je veux dire, dans le pire des cas, tu y crois pas, mais tu te dis, c'est bon de faire ça parce que ça me rassure. Psychologiquement, tu sais, c'est une bonne affaire de te dire ça. Puis, si on peut ajouter en plus de ça à cette image-là d'un Dieu cosmique, un Dieu quelconque à quelque part, une image de Père. Oh, là, ce serait bon. C'est pas de là que ça vient. Pour les chrétiens. C'est pas de là que ça vient, ça. On n'a pas collé sur la personne de Dieu l'image d'un père parce que ce serait une image forte et belle. Ce n'est pas de là que ça vient du tout. Nous croyons parce que la parole de Dieu nous le révèle et parce que Dieu nous l'a révélé dans nos cœurs. Nous croyons que de toute éternité, Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Une personne, trois personnes, un mystère incroyable. Trois personnes, un Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit. Nous croyons que Dieu le Fils est venu sur la terre pour nous inviter à entrer dans cette relation avec son Père. Tournez avec moi dans l'Évangile de Jean, s'il vous plaît. Au chapitre 1. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'Évangile de Jean, puis avec l'introduction de l'Évangile de Jean, Jean a connu Jésus de son vivant. Il a marché avec lui, il a servi Jésus, il l'a observé. Et au début, Jésus, c'était un personnage plus grand que nature, un peu difficile à comprendre parce qu'il était trop extraordinaire. Mais plus il avançait avec Jésus, il a pu comprendre qui il était. Et il a vu Jésus sur la croix, mais Jésus ressuscité aussi. Et donc, Jean a reçu une révélation de la personne de Christ. Qui est-il? Dans l'introduction de son évangile, Jean nous parle dans un langage qui est assez puissant, avec des métaphores, et j'ai pas le temps vraiment de rentrer dans tout ça, mais il nous parle en fait de la personne de Jésus-Christ. Au verset 9, Jean dit « cette lumière » en parlant de Jésus, qui est venu nous donner une révélation du salut, une révélation du Père, une révélation de Dieu. « Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. » pour nous faire connaître Dieu, pour nous faire connaître ses desseins envers nous. Elle était dans le monde, au verset 10, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, et si on prenait le temps de lire tout le passage, le nom de Jésus-Christ, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Celui qui place sa foi en Jésus-Christ par un miracle, une intervention surnaturelle de Dieu, reçoit en lui-même l'Esprit de Jésus-Christ et devient à son tour enfant de Dieu. Voyez-vous, les chrétiens prient Dieu et l'appellent Père, pas parce que c'est une belle image à coller à la personne de Dieu, mais parce que Dieu nous a révélé dans sa parole qu'il y a un Dieu et trois personnes en Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et le Fils est venu pour rendre possible à chacun d'entre nous, de devenir à notre tour des enfants de Dieu. C'est l'adoption du chrétien. La semaine prochaine, on va parler du processus d'adoption. La semaine prochaine, je vais élaborer sur ça. Puis on va continuer à avancer dans cette série-là pour aller voir les privilèges de l'adoption, de cette relation avec le Père. Maintenant, certains d'entre vous, vous êtes peut-être encore dans l'orphelinat en train d'attendre d'être adopté. Parce que vous n'avez peut-être pas encore placé votre foi en Jésus-Christ. Et vous avez besoin de découvrir l'Évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle que Jésus-Christ nous a apportée. Comment être adopté par Dieu et avoir un Père céleste qui veille sur nous. Venez nous poser des questions. Vous avez besoin d'avoir ce message-là personnellement afin d'être adopté à votre tour. Je termine sur un passage, d'accord? Dans Galates, l'Épître aux Galates, Galates 4. Et c'est le passage, en fait, qui a été le point de départ de ma réflexion pour travailler sur cette série-là. C'est le passage qui a été le point de départ pour que je décide de travailler sur cette série parce que j'avais la conviction que beaucoup de personnes qui croient en Jésus-Christ ne vivent pas ce passage-là. D'accord? Alors, vous ferez du millage là-dessus, vous réfléchirez à ça. Galates 4:6, c'est l'apôtre Paul qui parle et il dit « Parce que vous êtes fils, parce que vous avez été adoptés, on va en parler davantage la semaine prochaine, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils. » Jésus savait qu'il avait un Père. Et si j'ai l'Esprit de son Fils, je vais pouvoir comprendre que j'ai un Père. Mais Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Papa, Abba, Père ». Paul nous dit qu'à partir du moment où on a placé notre foi en Jésus-Christ, non seulement c'est une réalité que Dieu le Père m'a adoptée, mais en plus, il a placé en moi l'esprit de son Fils qui parle à mon cœur et qui, lorsque moi je ne suis pas capable de le crier, de l'exprimer, lui-même le dit pour moi. Papa! Parce qu'il est là et il habite en moi. Il est dans mon cœur. Frères et sœurs, si vous avez placé votre foi en Jésus-Christ, vous n'êtes pas des orphelins spirituels. J'aimerais ça cette semaine que dans la prière, vous alliez examiner vos cœurs pour essayer de mesurer jusqu'à quel point vous vivez quotidiennement comme si vous étiez des orphelins. Par vos inquiétudes, par vos soucis, vos préoccupations, par les choses qui vous tracassent, par votre manière de prendre des décisions. Parce que vous avez l'impression de ne pas avoir de confident, personne à qui vous confier, parce que vous vivez de la solitude. J'aimerais ça que vous alliez évaluer honnêtement devant Dieu. Est-ce que vous vivez et marchez comme des orphelins? Si vous êtes en Jésus-Christ, vous n'êtes plus orphelins. Vous avez un Père. Et Christ ne nous a pas laissés orphelins. Vous avez l'Esprit du Fils en vous qui crie « Abba, Père ». Je termine avec un devoir pratique, OK? Cette semaine, et pour le temps de la série, j'aimerais que, comme assemblée, individuellement, chacun pour nous, on ne commence pas à surveiller, là, de grâce, s'il vous plaît. Individuellement, on se fasse un point d'honneur de prier régulièrement notre Dieu en s'adressant à lui comme un chrétien s'adresse à Dieu, le plus souvent, Père. Et seulement cet exercice-là, pour plusieurs d'entre vous, va vous parler et va vous aider à évaluer si vous avancez comme des orphelins. Mais faites le pas de foi, de dire, Père, j'ai besoin de te connaître. J'ai besoin que tu me révèles cet aspect de ta personne. Père, j'ai besoin que tu me rassures aujourd'hui. Père, je veux te faire connaître mes besoins. Papa, j'ai besoin de toi parce que je ne sais pas où je m'en vais. On va prier. Oh Père, je t'adore, t'es tellement, 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 tellement bon pour moi. Père, tu connais mon cœur et tu voyais mon cœur avant de venir apporter ce message et j'étais vraiment comme ce petit enfant qui a besoin d'être rassuré par son papa. Toi, tu le sais, t'es témoin de mon cœur, tu l'as vu et comme un enfant qui se tourne vers son père et qui dit « Papa, aide-moi à finir mes devoirs. J'ai l'impression que mes devoirs ne sont pas terminés, papa. Aide-moi à les finir. » C'est ça que je t'ai demandé, Père. Et t'es là. T'es présent au milieu de nous. Père, nous avons besoin que tu nous révèles ton amour pour nous et combien tu veux prendre soin de nous. Que nous arrêtions de vivre comme des païens qui n'ont pas de Père céleste. Que nous arrêtions de marcher comme des orphelins, Seigneur. Nous avons besoin, Seigneur Jésus, que tu viennes nous révéler le Père. Tu as la puissance de le faire. Viens nous révéler le Père, Seigneur. Afin que nous retrouvions ce cœur d'enfant qui est en sécurité dans une maison saine où il est protégé. Ce cœur d'enfant qui n'est pas constamment inquiet par ce qu'il mangera demain. Ce cœur d'enfant qui n'est pas constamment préoccupé. Ce cœur d'enfant qui sait qu'il est attendu chaque jour par des parents qui l'aiment. Seigneur Jésus, viens nous révéler ton Père. Que ton esprit nous parle et nous révèle notre Père, qui n'est plus maintenant seulement le tien, mais qui est notre Père. Merci, papa. Amen.